Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Dans Punchline, on a le plaisir d'accueillir le général d'armée Pierre de Villiers. Bonsoir, général.
Bonsoir, Laurence Ferrari.
Merci d'être là pour Parole d'honneur, ce livre que vous éditez chez Fayard, Chose Vue, Lettre à la jeunesse. C'est vraiment le leitmotiv de ce livre, c'est cette adresse à la jeunesse française en qui vous avez foi alors qu'on la dénigre, en qui vous mettez de l'espérance alors qu'elle est désespérée. Et c'est important, on va en parler au cours de cette émission. On est aussi toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, qui m'accompagne dans cette émission. Avant, évidemment, d'évoquer la jeunesse, elle est partout, et le football, parce que je sais que vous êtes un amateur, mais plus qu'un amateur, un fou du ballon.
Je suis un passionné de football, donc vous n'y échapperez pas.
Je n'y échapperai pas, et Jacques Vendroux sera là avec nous tout à l'heure pour parler du premier match des Bleus qu'on va suivre avec énormément d'attention. Un petit mot de l'actualité. Je sais que vous êtes très préoccupé de ce qui se passe en Afrique, non seulement sur le plan militaire, l'opération Barkhane va être terminée, mais aussi en ce qui concerne la démographie africaine. On a eu le bateau Océan Viking qui a débarqué 234 personnes il y a une dizaine de jours. On a fait le constat avec Louis de Ragnel il y a quelques instants qu'il n'y avait pratiquement plus aucun de ces migrants qui étaient à Toulon. Est-ce que c'est une fatalité pour vous, cette immigration que nous n'arrivons plus à contrôler ?
C'est-à-dire que les chiffres sont clairs et l'avantage avec la démographie, c'est qu'on peut prévoir longtemps à l'avance. Là, on sait qu'aujourd'hui, le continent africain représente 1,3 milliard d'habitants, et tous les prévisionnistes s'accordent à dire qu'on sera autour de 2,4 à 2,5 milliards en 2050, dont à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, aura 25 ans, un peu moins de 25 ans. Donc, à partir de là, on voit bien, compte tenu de la pauvreté de ces pays, par exemple le Niger, que je connais bien, 7 enfants par femme, un des pays les plus pauvres du monde, où sévit le terrorisme, et la sécheresse avec le réchauffement climatique, il y aura forcément une forte pression du sud vers le nord, et il faut s'y préparer. Et on voit bien aujourd'hui que, dès aujourd'hui, la situation devient intenable. Alors, moi, je suis un homme d'humanité. Je pense qu'on ne peut pas continuer à accueillir des personnes dans la détresse et la pauvreté telle qu'on le fait aujourd'hui. Il suffit d'aller porte de la chapelle, et on constate que ce n'est plus possible. Donc il faut prendre des mesures, la première c'est les passeurs, je crois qu'il faut faire la guerre aux passeurs qui utilisent cette pauvreté en utilisant l'argent de ces pauvres gens qui traversent, et là il y a des mesures à prendre urgentes, et puis ensuite il faut prendre de la hauteur et avoir une vraie politique de développement, puisque la sécurité ne suffit pas dans ces pays, c'est le développement qui compte, pour que ces populations préfèrent rester légitimement dans leur pays plutôt que de fuir vers le nord.
Une petite question de Ragnel et après on avance.
Justement sur la question de développement, la France a une agence, l'Agence française de développement, et puis on voit bien depuis plusieurs années, la stratégie de la France était pas très claire, c'est-à-dire que dès qu'on investit un peu trop dans un pays en Afrique, on est accusé de néocolonialisme, et puis dès qu'on n'intervient pas, souvent, les pays qui sont souvent des anciennes colonies ou des anciens territoires français nous appellent à l'aide parce qu'il faut sauver un chef d'État, parce qu'il faut soutenir un gouvernement, et du coup on sait plus sur quel pied danser. Là, objectivement, par exemple, s'agissant du Mali, ce qui est dramatique, et c'est pas du tout pour la partie militaire, mais pour la partie politique, c'est qu'on se fait un peu chasser quand même par une junte qui a tout fait pour qu'on parte et qui aujourd'hui négocie avec les mercenaires de Wagner.
Général de Villiers.
Oui, on a en quelque sorte obtenu des succès militaires incontestables contre le terrorisme, mais on a perdu la paix. On n'a pas réussi à gagner la confiance des populations, à restaurer un État
et à
mettre en place des structures qui soient capables de gagner cette paix. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Vous savez, depuis 30 ans, quand on regarde, dans chacune des crises, à chaque fois, on a obtenu une victoire militaire. Et à chaque fois, quelques années après, on s'aperçoit que cette victoire militaire n'a pas réussi à gagner la paix, la stabilité, la confiance, le bonheur des populations. Donc il faut réfléchir au plan international avec l'ordre international, les structures chargées de ce rétablissement de la paix. Et en France, il faut réfléchir évidemment en interministériel pour améliorer notre capacité d'instaurer la sécurité et simultanément, dans l'espace et dans le temps, la paix, c'est-à-dire le développement pour les populations.
Général de Villiers, j'aimerais qu'on parle à présent de l'Ukraine. Là aussi, vous êtes très préoccupé par ce qui se passe dans ce pays. On va faire le point sur l'avancée des troupes de part et d'autre. Et puis j'aimerais qu'on parle ensuite de l'armée française. Mais d'abord, Sandra Tchombo pour un point sur ce qui se passe en Ukraine.
Sans eau ni électricité depuis plusieurs semaines, les habitants de Kherson vont désormais en puiser dans le fleuve Dniepr qui borde la ville, malgré la menace russe permanente. Les Russes sont de ce côté. Vous avez peur ? Nous étions plus effrayés quand ils étaient ici. Ils tiraient sur tout le monde de ce côté, de façon chaotique. Cette situation invivable a entraîné l'évacuation partielle de la ville ce lundi. Elle pourrait perdurer selon les autorités.
L'évacuation totale n'est pas prévue. Cependant, nous envisageons une telle possibilité si la situation s'aggrave ou si nous ne pouvons pas résoudre les problèmes d'utilité.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé alerte.
Nous nous attendons à ce que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires quittent leur maison à la recherche de chaleur et de sécurité. Cette situation a déjà des répercussions sur le système de santé et sur la santé de la population. Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie.
Le gouvernement ukrainien s'est engagé à assurer le transport, l'hébergement et les soins médicaux des personnes évacuées en donnant la priorité aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
Général de Villiers, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, est un drame. Possiblement humanitaire, 2 à 3 millions de personnes qui pourraient encore quitter leur pays faute de nourriture, d'électricité. Est-ce qu'il y a une issue que vous voyez ou pas du tout, alors où on se parle, vu l'équilibre entre les forces russes et ukrainiennes?
Oui, c'est la guerre et on redécouvre ce que c'est que la guerre avec ses horreurs. Là, évidemment, les Russes vont jouer sur le moral des populations ukrainiennes en coupant l'électricité, en bombardant chaque fois que ça sera rétabli, en essayant de limiter les possibilités sur l'eau également, pour que le moral des populations soit atteint. Et on voit bien que l'hiver arrive, dans ces pays-là, c'est plutôt fin novembre, début décembre, avec des températures qui vont être très basses, et les populations vont souffrir. Ce qui fait la force de l'Ukraine aujourd'hui, c'est certes son armée, sa capacité militaire, mais aussi la défense du pays en armes. Cette cohésion nationale retrouvée. Et évidemment, les Russes vont essayer de jouer là-dessus pour saper le moral. Aujourd'hui, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, c'est quand même d'essayer le plus vite possible de mettre tout le monde autour de la table, de façon à avoir une approche diplomatique, un cessez-le-feu si c'est possible. Mais il faut reconnaître objectivement que dans la situation actuelle, ni l'un ni l'autre, aucun des deux pays n'a intérêt à se mettre autour de la table. Donc moi je vois l'hiver arriver avec, on connaît bien notre histoire, avec dans ces pays une forme de gel de la guerre, parce qu'il est très difficile de faire des offensives majeures en hiver jusqu'à l'arrivée du printemps. Je pense que c'est la stratégie russe, de façon à récupérer ensuite les personnels qu'ils auront formés depuis la mobilisation et être capable d'inverser le rapport de force au plan militaire en espérant des divisions de la population liées justement à ces difficultés hivernales.
Et l'armée française dans tout ça, Général de Villiers, vous l'évoquez dans ce livre Parole d'honneur, vous dites qu'elle est formée, elle est formidable, elle est beaucoup de jeunesse à l'intérieur de nos armées, mais combien de temps notre pays tiendrait-il face à une guerre de haute intensité comme celle à laquelle on assiste en Ukraine? Combien de temps? Combien de jours? Combien d'heures?
C'est bien le problème et c'est le différent que j'ai eu en 2017 parce que je voyais le terrorisme islamiste radical, il existe toujours, il continuera à frapper en Europe, dans le monde, en France. Mais je voyais aussi le retour des États-puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite. Et je voyais la convergence de ces deux lignes de conflictualité avec la nécessité d'être capable d'intervenir dans des crises face au terrorisme, mais aussi dans des guerres face aux États-puissances. Là, nous sommes en présence d'une guerre et quand on voit les consommations de munitions, d'artillerie, de missiles de croisière, de drones et le nombre de chars, de véhicules blindés qui ont été détruits, on se dit que l'armée française n'est pas préparée pour durer. L'armée française est la première en Europe, la deuxième probablement derrière les États-Unis pour des opérations de guerre. Mais pour mener et gagner une guerre, même en coalition, et même si nous avons la dissuasion nucléaire, c'est tout autre chose. Donc il y a une capacité militaire à reconstituer pour durer. Et puis il y a aussi une question qui se pose, parce qu'une guerre c'est aussi le moral, c'est aussi la cohésion, c'est aussi cette fraternité nationale qui fait que l'on gagne ou que l'on perd. Et là aussi, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si nous étions dans ce genre de situation en France ?
Alors, Général de Villiers, Pierre-Louis Dragnel a une question à vous poser.
Justement, j'avais une question. On comprend très bien le diagnostic que vous posez, et vous dites d'ailleurs souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les armées s'adaptent au budget, pour schématiser, et il faudrait en fait que ce soit l'inverse. On définit les besoins de l'armée, et le budget s'adapte aux armées. Aujourd'hui, concrètement, par rapport aux enjeux de demain, il faudrait qu'on ait une armée qui ressemblerait à quoi et avec combien de milliers d'hommes ?
Mais, c'est-à-dire que là, on a été petit à petit amaigri, délité depuis 30 ans, avec
ça va un peu mieux quand même,
les
délices
des dividendes de la paix, avec le premier arrêt 2015 où on a arrêté de nous laminer avec les attentats. Président Hollande avait stabilisé le budget et ensuite, début de la remontée avec l'arrivée en 2017 du président Macron, 1,7 milliard par an et 3 milliards cette année, dont une partie sera quand même largement absorbée par l'inflation. Donc, c'est bien sûr mieux que la stabilisation ou la décroissance, mais ça ne suffit pas. On n'est pas dans la même échelle par rapport à la guerre.
Selon vous, dans un monde
nous avons 220 chars Leclerc, nous avons 200 avions de combat, dont une partie ne sont pas disponibles. Je vous laisse ensuite imaginer la durée en munitions,
il en faudrait combien,
de croisière. Mais il faut augmenter beaucoup plus que 3 milliards d'euros par an. Il faut... Vous l'avez dit, il faut partir de la situation internationale. Il y a eu une revue stratégique qui le dit. Voilà, ce monde est de plus en plus dangereux, il est surtout de plus en plus instable. Et ensuite, en tirer les conséquences avec un modèle d'armée qui soit cohérent et capable de s'intégrer dans une coalition si nécessaire, en s'adossant sur la dissuasion nucléaire, bien sûr. Mais 220 chars, quand on voit que les Ukrainiens en ont beaucoup plus, des centaines de plus... Quand mais on voit
en budget dans le PIB.
Absolument. Dernier mot là-dessus, après on avance, Louis.
Non, mais moi je trouve que c'est intéressant de savoir, pas en valeur absolue forcément, parce que je vous demande un chiffre.
Doublé, triplé.
Mais il faudrait quoi en fait ?
Écoutez, on avait 600 chars il y a 20 ans. On avait 600 avions de combat il y a 20 ans, c'est l'ordre. On est maintenant autour de 200. Donc, il faut revenir à des standards de haute intensité. Voilà, c'est simple. Alors, bien sûr, la haute technologie permet de diminuer le volume, le nombre, mais le plus grand effort, il est pas sur les équipements, il est sur la capacité humaine dans la formation, parce que ça nécessite du temps, et puis sur la logistique, parce que en matière de soutien, les munitions, les pièces de rechange, les équipes médico-chirurgicales, il y a là, pour le coup, un gros effort à faire. Et ça ne se compte pas en mois ni en années, c'est beaucoup plus. Donc il y a urgence. Et il y a urgence que cette loi de programmation militaire passe la surmultiplier. Ce n'est pas une simple procédure budgétaire, bien c'est bien au-delà.
Général de Villiers, dans ce livre Parole d'honneur, vous vous adressez à la jeunesse française, à qui vous trouvez de nombreuses qualités, vous dites qu'il faut la mettre en avant, qu'elle aime jouer collectif, que, évidemment, vous faites le parallèle avec le football, parce que vous êtes un passionné de football. Il faut croire en nos jeunes, qui, eux, semblent ne pas croire en grand-chose.
Alors moi, j'ai coutume de dire que les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les raisons d'être pessimiste existent. Quand on regarde la situation internationale, on vient de l'évoquer, quand on regarde le climat social de notre pays, quand on voit ce qui se passe au plan écologique, on a quand même largement abîmé la nature, notre terre. Quand vous regardez toutes ces difficultés quotidiennes avec le pouvoir d'achat des Français, oui, mais moi je dis, il faut parier sur la jeunesse, et pour ça, eh bien... Il suffit pas de constater tout ce qui ne va pas chez nos jeunes, comme à chaque génération. Il faut se retrousser les manches, il faut leur donner confiance, il faut restaurer l'autorité, il faut leur expliquer pourquoi il faut travailler dans la vie pour être heureux, pourquoi il faut restaurer l'ordre, pourquoi il faut de la discipline, de la rigueur, pourquoi il faut faire des efforts. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai repris ma plume, parce que je pense que seule l'inaction est infamante et que la plainte, c'est bien. Mais moi, je préfère l'espérance.
Général de Villiers, on va prendre la direction du Qatar, parce que je suis sûr que vous allez adorer écouter Jacques Vendroux qui est avec nous. Bonsoir, mon cher Jacques, d'Europe 1. Nous donner la composition de l'équipe de France qui va être sur le terrain d'ici quelques minutes. Jacques, le général vous écoute, c'est un passionné de football. Expliquez-nous cette équipe de France.
Laurent, je vais faire la révélation. Le général est un supporter inconditionnel du Football Club de Nantes. Et je crois que dans une autre vie, il a été un bon joueur en division d'honneur du Football Club de Nantes et c'est vrai qu'il adore le football et qu'il suit le football. Donc, je pense que le général va être très intéressé. Dans les buts, Loris, en défense, Pavard, Konaté, ou pas Mécano, et sur le côté gauche, Luca Hernandez. Milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, et devant, alors devant, c'est une attaque de feu, une attaque extraordinaire, mon général. Vous auriez aimé supporter. Vous avez Dembélé. Vous avez également Griezmann, vous avez Mbappé, et devant, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, je suis sûr, c'est Olivier Giroud, qui va essayer de battre le record de Thierry Henry, et qui va essayer en tous les cas de s'imposer devant l'Australie. Il faut qu'il marque. Et puis vous savez, il y a eu un match nul cet après-midi qui ne nous arrange pas vraiment. Match nul entre la Tunisie, vous le savez, et le Danemark, 0-0. Deux très bonnes équipes. Alors si par malheur, entre guillemets, l'équipe de France faisait match nul 0-0 ce soir, ça n'arrange personne pour la suite de la compétition. Il faut que la France gagne brillamment et qu'on se retrouve donc au prochain tour de la Coupe du Monde et notamment contre le Danemark dès samedi prochain. Voilà, vous savez tout, mon général, et je rappelle aussi, parce que ça ne vous a pas échappé, cet après-midi, cet exploit incroyable de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine sur le score de 2-1. C'est le plus grand succès de l'Arabie Saoudite depuis qu'il participe à la Coupe du Monde de football. Et puis, ce dernier clin d'œil, m'en voulez pas, on en a fait des tonnes avec la climatisation dans les stades. Eh bien, non seulement il fait de plus en plus froid dans les stades, parce que le soir, il fait environ 20-22 degrés, et nos amis du Qatar, eh bien, mettent quand même la climatisation dans les stades. Donc, actuellement, on est au stade et il fait entre 17 et 18 degrés. Donc il y a un truc qui ne va pas quelque part.
Voilà. Bon, merci beaucoup pour le constat. Prenez une doudoune, Jacques. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Général de Villiers.
Merci Jacques Vendroux. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Nous nous connaissons bien et j'organisais des matchs avec une équipe militaire contre le Variété Club de France. Et je crois que nous avons un vrai lien d'amitié. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un grand journaliste du football qui sait de quoi il parle. Et on va tous pousser pour l'équipe de France. La composition me paraît excellente. Je préfère cette tactique du 4-2-4 que les pistons latéraux. Personnellement, j'ai toujours été un peu dubitatif sur cette tactique. Je trouve que nous avons une attaque de feu. Et si notre défense tient, eh bien, il n'y a pas de raison que la victoire nous échappe.
Général, pourquoi le foot, c'est si important ? C'est quoi ? C'est une école de la vie pour vous ?
Parce que j'ai été formé, au-delà de l'éducation que j'ai reçue par ma famille, mes parents, mais j'ai été formé par l'armée et par le football. Et finalement, de la même manière, l'importance du collectif, la vraie fraternité, je ne vaux rien sans les autres, les défaites qui construisent les grandes victoires, tout ça, je l'ai appris dans le foot dès ma plus petite enfance, parce que j'ai joué dès l'âge de 10 ans. Et le foot m'a tout appris. Et on m'interroge souvent en disant comment vous avez réussi votre carrière militaire. Je réponds souvent par le foot, parce que c'est vrai que quand j'étais en régiment, je créais une équipe, j'étais le capitaine de l'équipe, et je mettais de la cohésion.
Il y a les mêmes valeurs dans le foot que dans l'armée, ou c'est un peu abusé de dire ça quand même ?
Alors, il y a les valeurs,
foot aujourd'hui,
il y a les valeurs du collectif, mais l'armée a un avantage par rapport au foot, c'est que nous ne sommes pas pollués par l'argent.
Oui, absolument, ça, bien au contraire. Mais le foot, aujourd'hui, il faut soutenir les Bleus, il faut se dire, voilà, on a une belle équipe et on est derrière eux.
Il faut qu'ils gagnent ce soir, parce que la dernière fois, on était tombé au premier tour contre l'Australie, premier match, on avait très mal joué, on avait gagné très péniblement 2-1. ça serait bien qu'ils gagnent et de la meilleure manière qui soit pour gagner de la confiance. Vous savez, la confiance, c'est un des points d'ancrage. Le premier que je donne pour les jeunes, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les sportifs, c'est valable pour tous les Français. La confiance en soi, la confiance dans l'autre, c'est ce qui crée cette cohésion, cette mayonnaise.
La confiance et l'espérance que vous avez toujours au fond
et de... Et l'espérance parce que je pense que nous avons un grand pays, nous avons une belle équipe de France, nous n'avons pas de raison de douter. Le doute, c'est le début de la défaite et la défaite, ce n'est pas admissible.
Très bien. On gardera cette punchline du jour du général Pierre de Villiers. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline.
Merci
Parole
de m'avoir invité.
Lettre à la jeunesse, Fayard, chose vue. Merci encore de
et
ces
allez
conseils.
La France.
Évidemment, vive les Bleus. On va retrouver d'ailleurs dès 19h15 sur Europe 1, Lionel Rousseau pour Europe 1 Sport. On vivra tous les matchs en direct. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.